Bonjour, Françoise Tressart, la belle équipe du jour pour la deuxième partie des Papous entre deux ponts, une émission enregistrée en public le vendredi 5 mai dernier au studio 105 de la Maison de la Radio entre le pont du 1er mai et le pont présidentiel du 8. Une belle soirée passée ensemble pendant presque 3 heures. Pendant lesquelles nous avons joué avec les ponts, les vrais, les virtuels, avec des jeux parfois improvisés sur scène devant vous. Alors, dimanche dernier, il fut question d'un pont tombé dans la Dige, succombant au poids du cadenas d'amour unissant Roméo et Juliette. Las, ce pont était le seul lien entre l'autre rive et la maison des Capulet. Papa Capulet, pas content. Et puis nous avons joué avec une œuvre de Dumas pour la partie expert faussaire, à fleur et moucheté côté expert, avec l'élégance du style Dumas et sa richesse d'image côté faussaire. Et il y eut aussi les bourrimés en chanson, en poème, la plupart des mots à la rime étant offerts par les spectateurs du 105. Un premier dimanche entre deux ponts qu'il est encore temps de télécharger pour la réécoute. Et vos collections de Papous en public, le podcast, sur franceculture.fr. Merci de votre fidélité aux Papous et bienvenue chez nous à ceux qui écoutent pour la première fois. On reprend donc le fil de cette soirée Papous entre deux ponts. Avec moi sur la scène, Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier, Jacques Jouet, Sophie Divry, Patrice Minet, Lucas Fournier, Jacques Vallée, Eva Almassi, Jean-Bernard Pouy et Gabriel Godard pour accompagner nos jeux en musique. Un numéro des Papous à écouter, les oreilles libres, comme d'habitude, ou avec un casque pour être bien au chaud au cœur du son binaural, fabriqué pour nous par Bernard Laniel, complice des Papous depuis la première heure, Bernard. Avec le son binaural, vous aurez l'impression d'être à la fois dans la salle et sur scène avec nous. Une expérience à vivre, les sensations sont belles. Les Papous, entre deux ponts, deuxième partie. On se lance avec un exercice de style sur le mot pont, à la fois proustien ou proustique, comme il a l'habitude de le dire, et allitératif. Jean-Bernard Pouy se lance en une seule phrase, presque en apnée.
Il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure. Chanter l'autre, qui était lui-même une sacrée tête de pont. Et là, aujourd'hui, on ne va pas parler du pont RTT. Surtout que les ponts, nous, on aime bien qu'ils soient petits, tranquilles, moussus, pour pouvoir s'accouder à leur parapet et regarder de haut, pendant des heures, l'eau défiler, l'eau couler justement sous les ponts. Et ça ne loupe pas. À tous les coups, on cite Apollinaire, une vraie scie, ce pont Mirabeau. Alors que cet été, on a vu, en plein vent, le pont l'île de Ré et celui de Tancarville. Et que cet hiver, on a emprunté le pont Neuf sous la pluie et le pont des Arts sous la neige. Vous savez, ce dernier, jusqu'à peu, appelé le pont de l'amour, voire le pont des cadenas, ça dépend de ce que vous pensez de l'amour. Ce noble sentiment. D'ailleurs, ça correspond. À cause de l'amour, justement, il a failli s'écrouler, le pont. Revenons aux fondamentaux, c'est toujours et malgré tout le passage d'une rive à l'autre, d'un âge à l'autre, d'une situation à l'autre, quand ce n'est pas une passerelle, voir un branlant pont de singe entre deux êtres. Ah, encore l'amour. Cet ultime pont qui me ramènera vers toi, ma chérie. Ou le pont entre deux générations. C'est le chaînon manquant, le passage important. Le moment où l'on danse, comme à Avignon. Ou bien le pont du Nord. Là, on y danse aussi, mais jusqu'à la mort. C'est le lieu où l'on soupire, comme à Venise. Ou bien c'est le pont que, pour se protéger, on fait sauter. Alors c'est fini. Au feu les pompiers. À mort les pompistes. Attention au triple pontage. On coupe les ponts, encore la rivière Kouai, ou le pont de Remagen, le pont de Cassandra, les ponts de Tokori, le pont de la dernière chance, tous ces films pontifiants. Attention, vu du pont, il s'en est passé des choses. C'est le pompon, je réponds. Ponçons les poncifs, et sans pondération. Alors en avant, l'absinthe de Pontarlier, qui rend pompette. Le coulant de Pont-l'Évêque, l'école des peintres pompeux de Pont-Aven, l'acier de Pont-à-Mousson, le curé Pongis de Pont-l'Abbé, le château pontifiant de Pontivy, avec tous ses pontons, l'autoroute de Pontoise, les dorades de Pansa, pour ceux qui connaissent, le mirliton de Pont-de-Mer, les poules pondeuses de Pont-Croix, le ponctuel chevalier Bayard de Pontcharra, le duguesclin de Pont-Orson, les lapons du lac de Pontchartrain et bien sûr tous les nippons du Japon. Sans oublier Pompéi, passé à la ponceuse, et le Golden Gate, un pont d'or. Bon, rompons, interrompons cette liste cache-tampon, levons le pont-levis, pimpons, dégustons le chapon, pêchons le tarpon avec un harpon, mettons un poncho, visitons le pont de Saint, soyons chiche-capons, fripons, corrompons, soulevons les jupons en crépons, cessons d'être crampons, ne soyons ni pontifs ni ponce Pilate, pompons comme les Shadocks, ne passons pas le guet, même si nous le sommes. Pom 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 pom. Montons sur le pont pour voir le monde du haut de notre passerelle intime. Oh.
La chute était vraiment jolie. Mais pas que, hein, mais pas que. Jacques Vallée, avec Jacques Vallée, avec Sophie Divry et avec Patrice Minet, mais chacun à leur tour, nous allons jouer au clavecin bien trempé, au jeu des homophonies approximatives. Alors, de quoi s'agit-il? Je leur ai imposé un début, qui n'est pas vraiment une phrase, il n'y a pas de verbe, mais ça dit « la bataille des deux ponts ». Je trouvais qu'à l'oreille, c'était porteur d'infinies possibilités homophoniques. Donc leur mission, écrire une histoire qui débute avec la bataille des deux ponts et qui s'achève sur une homophonie approximative de cette bataille des deux ponts, c'est-à-dire une phrase qui, vite dite, aura à peu près la même sonorité, mais pas du tout le même sens. Il est bien vu, mais pas du tout obligatoire de passer par une homophonie intermédiaire qu'on signale pour être bien certain que tout le monde l'a vu passer. Donc, Jacques Vallée, c'est à vous l'honneur, c'est à vous d'ouvrir le bal des homophonies. Et bon, Jacques Vallée, il est poète, comme Jacques Jouet, d'ailleurs, sont les deux poètes des Papous, vraiment. Donc, je présume que vous avez écrit un poème, non?
Oui, c'était en Alexandrin, parce que c'est la bataille, c'est dernier.
C'est Hugo? Non, parce que vous ressemblez à Victor Hugo, c'est
tout
hugolien.
À fait, oui, je vais le citer.
Oui.
La bataille des deux ponts. La bataille des deux ponts, ô morne vision. On pourrait voir la mort mêlée au bataillon. Dans le soir, recouvrant la lutte ardente et noire, on entendrait rugir l'usine de la gloire. On serait revenu au temps du vieil Hugo, quand la poésie montait sur ses grands chevaux. Souvenez-vous, ces cris des mourants qu'on égorge, le gouffre flamboyant, rouge comme une forge, où tous les régiments, comme des pans de murs, tombaient ou se couchaient comme des épis mûrs. Eh bien non, j'abandonne ce souffle héroïque. La bataille des ponts est pour moi idyllique. Ils sont deux en effet pour un enchantement, un pont sur la rivière, un pont sur l'affluent. C'est là, le soir tombant, que courait un jeune homme vers celle que pour vous, Valentine, je nomme. Et au lieu du crachat de ces sombres canons, je dirais, c'est l'intermédiaire qui va arriver, et au lieu du crachat de ces sombres canons, je dirais, les retrouvailles de vieux démons.
Oh, ça ressemble, hein?
Elle est un peu approximative.
Très légèrement.
Et au lieu du crachat de ces sombres canons, je dirais, les retrouvailles de vieux démons, et il ne sera plus question de légionnaires, mais de ses amoureux au bord de la rivière. Lorsque lui arrivait, essoufflé, impatient, Valentine attendait dans l'herbe au confluent et portait, pour lui plaire, une tenue légère. Il la revoit encore, son visage s'éclaire. Ils sont tous deux émus des premiers rendez-vous au bord de l'eau rageuse, au bruit de ses remous. Elle endormait en lui l'inconfort et le doute. Ils posaient sur leur peur une paix qui envoûte. Ils laissaient la nuit douce envelopper les corps et leurs brèves amours restaient le seul décor. Ô souvenir, c'était ainsi la tendre guerre que l'on ressort ici des cartons de naguère. Avec l'espoir secret, en rappelant ces ponts, de retrouver la chamaille des jeux fripons.
Oh, c'est beau. Oh, Redites-nous ça, Jacques, la bataille des deux ponts.
La chamaille des jeux fripons.
Très, très joli. Merci. Alors, plus tard dans la soirée, nous aurons les histoires homophoniques de Sophie Divry et la chanson homophonique de Patrice Minet. Et c'est l'heure de la chanson de Gabriel. C'est une chanson d'amour contre vous. C'est un petit air de Bécaud. Et c'est bien de chanter du Bécaud parfois, Gabriel.
La chance, la contre-chance, la danse, la contre-danse. Je m'en balance, je m'en contre-fous quand je suis donc contre vous. Les flûtes, les contre-flûtes, la basse, la contre-basse. Ça me dépasse, je m'en contrefous quand je suis donc contre vous. Les maîtres, les contre-maîtres, les marches, les contre-marches. En avant, arche, je m'en contrefous quand je suis donc contre vous. Je chante, je contre-chante, des notes et contre-notes. Mais que m'importe, je m'en contre-fou quand je suis tout contre vous. Les cruches, les contre-cruches, les poses, les contre-poses. La chance, la contre-chance, la danse, la contre-danse. Je m'en balance, je m'en contre-fous quand je suis tout contre vous. Quand je suis tout contre vous. Quand je suis tout contre vous.
Vous écoutez France Culture, les papous entre deux ponts, en public, au studio 105. On va jouer un deuxième jeu qui sera entièrement improvisé devant vous. C'est le jeu de la textée. Alors, la textée, je suis très contente que Jacques Jouet soit là, parce que c'est un jeu qu'il a eu envie de tester au papou un jour. Il m'a dit, tu sais, Olivier a imaginé un jeu qui s'appelle la piquetée, et qui consiste, Olivier était peintre, et ça consistait à dicter à des peintres, chacun devant leur feuille de papier ou à des dessinateurs, un dessin en disant là tu fais une courbe, là tu fais une flèche, etc. etc. Et en fait, il fallait dessiner une Joconde ou quelque chose comme
oui,
ça, Jacques Jouet.
Oui.
Hein, et je me souviens, vous me l'aviez raconté, que vous, avec toutes ces indications, vous aviez dessiné une magnifique paire de fesses,
voilà.
Mais en vous pliant vraiment aux injonctions, en respectant...
C'était la Joconde de dos.
La Joconde de dos. Et donc, on a adapté ce jeu à la radio, et ce soir, on va jouer à la textée. Et c'est donc vous qui avez fait la feuille de route, et se plieront à vos injonctions Patrice Minet, Eva Almassi, Jacques Vallée et Jean-Bernard Pouy. Alors, on écoute.
Prenez absolument vos cahiers.
Voilà. Donc, de quoi s'agit-il ? Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est comme pour le dessin. Il va y avoir des injonctions et ils devront écrire ce que leur inspirent les injonctions. Peut-être une image, peut-être une figure grammaticale ou verbale. On découvre.
Oui, alors, c'est un poème.
Bon, déjà, on sait qu'il s'agit
c'est
d'un poème.
C'est un poème. Dans ce poème, on n'a pas besoin de rime. Je tiens à le dire d'emblée.
Oui.
Le titre, d'abord. Le titre du poème fait brièvement allusion à une mutation.
Voilà, donc vous devez écrire un titre. Oui.
Le premier vers, pas très long, évoque un personnage accablé. C'est pas compliqué.
Non. En un vers, on peut imaginer.
Ensuite, il y a un refrain, et j'expliquerai plus loin ce que sera ce refrain.
Oui.
Le deuxième vers, plutôt court, évoque un groupe occupé à faire ce que fait habituellement un groupe. Vraiment.
facile.
Élémentaire. Ensuite, il y a un refrain. J'expliquerai plus loin de quoi il s'agit dans ce refrain.
Oui.
Le troisième vers, passablement bref, évoque le titulaire d'une certaine profession qui utilise de façon éhontée son poste de travail pour ne pas en foutre une rame.
La feuille de route est délicieuse, en tout cas.
Ensuite, il y a un refrain. J'expliquerai plus loin ce que c'est le refrain. Le quatrième vers, assez concis, évoque un symbole guerrier sous la neige. Magnifique.
Oui.
Ensuite, il y a un refrain et j'expliquerai un peu plus loin ce que c'est le refrain. Le cinquième vers, relativement laconique, évoque un autre symbole guerrier qui fait ce qu'on lui demande habituellement de faire. Mais ici, le niveau de langue passe au franchement familier, voire vulgaire. Ensuite, il y a un refrain, etc. Le sixième vers, un peu plus long que les précédents, mais pas trop, évoque un échec à répétition du genre très agaçant quand ça vous arrive. Mm-hmm. Attention, après, il n'y a pas le refrain.
Ah.
Mais, le septième vers, qui n'est pas plus long que 12 syllabes, est découpé en 5 segments inégaux, forcément parce que 12 n'est pas divisible par 5, et doit être prononcé comme dans un halètement. Ha, 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 ha. Et il finit par affirmer une forte inclination pour une personne du sexe opposé. Et maintenant, ça se termine par le refrain, et maintenant
ah oui.
Je vais expliquer ce qu'est ce refrain. Ce refrain est une sorte de courte ritournelle dans le genre tralala et tout, un peu plus inventif si c'est possible.
Très très belle texture. Vous êtes gâtée. Bon, je sais pas, Eva, vous êtes livide. Il y a une question peut-être.
Oui, une seule question. L'issue de secours.
Allez vite, travaillez, vous n'aurez pas trop de temps. Et donc, nous, on va rester entre nous avec Sophie Divry, Jacques Jouet, Lucas Fournier, Hervé Le Tellier aussi. Alors, nous sommes dans un week-end électoral. Ah, ça aurait été difficile de ne pas parler élection. En même temps, ce sera diffusé après les résultats. Donc, on pourrait tous permettre, en vérité, mais on est plus léger, disons, papou dans la tête. Donc, on va parler des élections sans vraiment parler de trop près. Puisque c'est Lucas Fournier qui va attaquer. Si on va en parler de oui. Si près que ça, parce que Lucas Fournier, il est très très impliqué, à vrai dire, dans cette élection présidentielle. Parce
oui.
que vous êtes...
Je suis un bulletin de vote. Oui, oui. De l'élection présidentielle, un vrai. Alors, bien sûr, Françoise, vous êtes soumise à un devoir de réserve.
Oui.
Mais moi, je ne fais pas de politique. Hein. Je suis l'instrument de la démocratie, c'est une nuance. Relisez Tocqueville. Je suis donc un rectangle blanc, en papier, avec des lettres noires, Helvetia. Helvetia, c'est la Suisse, je sais, merci,
oui.
Mais c'est mon caractère. Un bon caractère, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle police pour écrire un nom sur le bulletin de l'élection présidentielle de la République française. Vous imaginez des noms de candidats écrits en Times New Roman
bon.
Ou en gothique sur leur bulletin? Non. Et vous imaginez le général de Gaulle en Baskerville Goldface?
Non. Ou en Goody Old Style.
Oui, c'est encore pire. Tandis qu'Helvetia, c'est la Suisse, c'est neutre. C'est ma troisième présidentielle. J'ai fait 2007-2012 et là, 2017. Henri Bourichon.
Ça vous dit quelque chose?
Je suis le bulletin d'Henri Bourichon. Ou plutôt, je suis un des bulletins d'Henri Bourichon. Nous étions des millions. En fait, nous partîmes 20 millions et par un non-scrutin, nous vîmes 500 en arrivant à l'urne. Enfin, 512. 512 voix en France métropolitaine. C'est le score de Henri Bourichon à la présidentielle 2007. Assez loin derrière tous les autres. Toutes concentrées dans le canton de Rouffignac de Sigoulès où il a toute sa famille. Alors, pour me situer, moi, en 2007, hein, parce que depuis j'ai évolué, je me situais exactement entre François Bayrou et Marie-Georges Buffet. Non, je ne parle pas politique, je ne suis qu'un bulletin. Je vous donne juste ma position sur la table du bureau de vote. Mmh. Alors moi, j'étais précisément dans le troisième bureau de vote des Hauts-Cantons à Lavalou-les-Bains. Et j'ai attendu comme un long dimanche de fiançailles qu'une main frémissante vienne me chercher. Et là, il ne faut pas se cacher la vérité. On m'a délaissé. Hein. Des doigts passés au-dessus de moi, mais non. Douceur d'être ou de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, comme disait Valérie. Oui, enfin, Paul, pas Giscard. Et les autres, mes collègues bulletins, je les voyais partir frétillant vers l'isoloir, cette alcôve secret de plaisir et de mystère. Et moi, je restais à guetter les lecteurs. C'est le fantasme des bulletins, l'isoloir. Là-bas, on a une chance de se faire prendre, de se faire introduire dans une enveloppe, et après, on peut ramper sans bruit vers les trésors de l'urne, et à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, infuser mon bulletin, comme disait Charles. Non, pas Charles de Gaulle, Baudelaire. Alors enfin, vers 17h, ce dimanche 22 avril 2007, des doigts, un peu poisseux, mais enfin des doigts, m'ont emporté vers l'isoloir. J'étais, comment dire, vous qui votez sans nous voir, sans même nous dire bonsoir, songez que nous songeons à la douceur d'aller vivre là-bas, de l'autre côté du rideau. Songez que si vous vous abstenez, vous nous condamnez à l'abstinence. Mais là-bas, derrière le rideau, horreur et désespoir, le spectacle était d'apocalypse. Sur un étroit rebord, gisaient pêle-mêle tous mes frères bulletins délaissés. Après l'ordre rectangulaire et lugubre de la table du vote, régnait le capharnaüm de l'isoloir, un sang-guette des reculés. Pour la destination Élysée, je les revois, les Laguillers, les Chivardis, les Villiers, les Beauvais, froissés, abandonnés. La politique est une leçon d'inhumanité, comme disait Nicolas. Non, pas, Sarkozy.
Pas Sarkozy.
Non, Machiavel. On nous a laissé longtemps. Hein. On fait le ménage dans la salle polyvalente, mais personne n'a jamais l'idée d'aller nettoyer l'isoloir. Du coup, j'ai passé un quinquennat entier avec les autres bulletins sur la petite tablette, coupée du monde, façon Koh-Lanta. 2012. 2012 est arrivé, j'espérais que Henri Bourichon fût à nouveau candidat pour avoir, moi, une deuxième chance. Par moi, avec moi et en moi, la souveraineté populaire allait s'incarner. Je ne serai plus une feuille de papier, mais l'expression accomplie de la démocratie, héritée des Lumières et de la Révolution française. Le premier tour 2012 est passé. Pas bien, d'ailleurs. On m'a ajouté de nouveaux compagnons d'infortune, Cheminade, Poutou, Artaud, oui. Personne ne m'a regardé, rien. Bourichon, on ne connaît pas. Bourichon, on s'en fout. Si ça se trouve, il n'était même pas candidat et personne ne l'a remarqué. Hein. J'ai donc fait un second quinquennat, toujours abandonné dans l'isoloir, sur la tablette, à attendre, avec les bulletins anciens de 2007 et 2012. C'est rien passé pendant 5 ans, rien. Le désert des Tartares. Le plaisir est dans l'attente, comme disait Laurence. Non, pas Laurence Parizeau, Laurence Darabi. Hein. Et puis, le 23 avril 2017, quelqu'un a ouvert le rideau. Une journée particulière a commencé, pour la France, mais pour moi surtout. Je suis un acteur qui ne joue qu'une fois tous les 5 ans. Ma vie, mon destin allait peut-être basculer, enfin dans l'urne. Le doigt de Dieu, c'est ton doigt, ô électeur, qui peut faire de moi l'élu. Cette année, c'était l'année des noms en... Et avec mon bourri, chant, j'étais bon. Ne revenons pas sur les résultats du premier tour. Il en reste un second. Les chances de Bourichon y sont faibles, mais sur un énorme malentendu, je ne perds pas espoir. Non, car comme disait François, non pas François Hollande, ni François Ier, non pas François Fillon, non pas François Asselineau non plus, non pas François Mitterrand, ni François Baroin, François de Rugy, François Léotard, François Rexamène, François Comet, François Claude, si, ah ben si, François Claude, Claude François. Mais si un jour tu te retrouves tout seul, que le bonheur soudain t'abandonne, que pour te consoler tu ne trouves personne, viens vite, je t'attendrai. Française, Française, Henri Bourichon et moi, on vous attend.
Mais tout de même, vous pourriez vous présenter aux législatives, c'est bientôt.
Aussi.
Aussi. Sophie Divry, est-ce que vous êtes quelqu'un,
je sais pas,
dans le bureau de vote ou un collègue de Bourichon?
Je suis un collègue, je suis l'isoloir.
Ah ben, ce lieu si important, oui.
Cher bulletin de vote, tu es bien ingrat de te plaindre, on en fait beaucoup trop sur vous, alors que personne ne parle de moi, l'isoloir. On parle tout le temps du papier, alors qu'on fait fi de tout bois. Le bois qui structure ma colonne vertébrale, qui est elle-même le squelette sans lequel la démocratie ne pourrait pas marcher. Je m'exprime comme je peux. Hein. D'habitude, ma voix ne compte pas. Avec sa grande hache, mon histoire commence par un bûcheron qui me coupe dans un épicéa, au cœur d'une forêt du Languedoc. Alors une fois monté en planche au premier tour, j'ai eu le choix entre devenir un confessionnal, devenir un confessionnal ou finir dans la fournaise d'un chauffage central. Alors j'ai voté pour l'église, hein, vous pensez. Alors, pendant des années, j'ai accueilli les jupes d'un vieux curé confessant les messieurs-dames du village de Pardaillon. J'en entendais d'atroces hein, dans la paroisse. Des tournements de fonds, emplois fictifs. C'était... Mais le ministre des cultes ne s'attaquait pas encore à nous, les fonctionnaires du sacrement. Hélas, en 1914, mon vieux curé attrapa des rhumatismes. On ne le remplaça pas. Hein. On me laissa le choix entre me transformer en soutènement dans les tranchées ou devenir un vestiaire à la cure de l'amalou.
Ah oui ?
Ah ben, j'ai choisi le moindre mal, hein, comme toujours. Alors, j'espérais travailler dans le vestiaire des femmes. Ah, ce fut ceux des hommes. Adieu mon rêve de jolies jambes. Alors l'idéal aurait été de parvenir à gagner les vestiaires de la salle de danse des majorettes de l'Amalou. Mais ce rêve s'effondra à nouveau. Quand les employés municipaux firent le ménage en 1918, j'étais minoritaire. Alors on nous laissa le choix entre les vestiaires des aficionados de la chasse à cour avec leurs horribles chansons sanguinaires ou devenir un isoloir dans le bureau de vote des hauts cantons. Ben, j'ai voté pour l'isoloir. Un peu dépité quand même. Hein. Voilà. Alors c'est un métier calme, isoloir. On nous recrute même là-dessus. Hein. Discrétion, immobilité, persévérance, capacité à tenir en secret. Alors on vit de longues séquences de chômage. Et puis tout d'un coup, le coup de feu. En quelques mois, et puis à nouveau, rien. L'hibernation. Rentrez chez vous, circulez, merci d'avoir participé. Non, mon problème, c'est que pendant de longues années encore... J'ai vu que des hommes, à ma joie quand les électrices enfin arrivèrent. Alors, elles étaient plus souriantes. Peut-être elles sentaient en passant le rideau toutes les ondes que j'essayais de leur envoyer. Elles me regardaient. Parce que personne ne regarde un isoloir, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mmh. Ouais, la petite tablette là, mais... Non, rien. Non. Elles me regardaient. Elles hésitaient. Beaucoup de rêves, beaucoup de tensions, beaucoup d'espoir. Et puis, encore je le sens, l'hibernation. Non mais cette fois-ci, je ne veux plus qu'on me remette au placard. Je veux rester là, dans les hauts cantons, je veux participer, je veux qu'on m'entende, je ne veux plus me taire. Tiens, je vais voter Bourrichon.
Oh, quelle bonne idée! C'est dommage parce que ça n'a pas l'air très joyeux la vie. Dans...
Non, mais toute situation est
référence à une situation réellement existante. Oui, alors, je ne sais pas, on a un troisième larron, c'est Hervé Le Tellier. Vous êtes quoi? Vous êtes qui dans l'histoire?
Qui reste-t-il? Évidemment, je suis l'urne.
Ah bah oui.
Je suis l'urne de la Malou-les-Bains.
Oui.
Je somnole. Je suis tout en vert. J'attends dans le placard, moi aussi, troisième bureau du Haut-Canton. Alors, avec les années, on a appris à se connaître, hein, des bulletins de Henri Bourrichon et moi. Henri Bourrichon. Henri Bourrichon. Henri Bourrichon, Henri Bourrichon, Henri Bourrichon, Bourrichon, Henri, Henri. C'est joli, c'est comme les crayons noirs, H pour dur et B pour gras. HB, HB, les bulletins d'Henri Bourrichon. Ah, je t'aime, Henri Bourrichon, je t'aime. Je suis tombée amoureuse de toi avec les années. Tu sens bon la cellulose, tu sens bon l'encre, tu es timide, tu es réservée. Ah oui, c'est pas comme les autres, hein, ceux qui se croient. Je donnerai pas de nom, mais il y en a des prétentieux, des pourris, des qui cachent leur jeu. Ah mais non, les bulletins d'Henri Bourrichon, mais c'est la pureté même. Ah, c'est pas drôle ma vie, vous savez, c'est pas drôle, hein. Non, c'est vrai, pas de relation pendant 5 ans. Et puis d'un coup, 150 électeurs. Non, mais 150 inscrits, bon, d'accord, faut compter avec l'abstention, mais tout de même, ça fait presque une douzaine de votants à l'heure. Et pendant 12 heures, bonjour les cadences infernales. Alors que j'ai la forme tout ankylosée. Et surtout, jamais un bulletin HP. À voter. Emmanuel, François, Philippe, Jean, Jean-Luc, Nathalie, Emmanuel, mais moi, c'est Henri que je veux. Mon Henri. Ce dont j'ai envie, ce que j'appelle de mes vœux les plus chers, c'est qu'on reconnaisse le vote blanc. Vraiment. Alors peut-être qu'on les ressortira, les BHB. On les mettra en pile pour que les électeurs les prennent pour exprimer le vote blanc. Et on fera enfin l'amour. Mon bulletin Henri Bourrichon et moi. Parce que Platon, c'est peut-être la République. Mais moi, la République platonique, j'en ai marre. Prends-moi, Henri. Prends-moi. On pense pas assez au plaisir de l'urne quand on passe l'enveloppe. Prends-moi.
Les élections ont été traitées. Les papous dans la tête, les papous entre deux pour en public au studio 105. On continue avec vous, Sophie Divry. Et donc c'est à votre tour, après Jacques Vallée, de jouer aux homophonies approximatives avec la bataille des deux ponts. C'est le début de l'histoire, la fin sera une homophonie approximative. Il y en a une au milieu.
Oui, il y en a une au milieu.
Bon, alors vous lèverez le doigt pour qu'on la voit bien passer. Alors, c'est un poème comme Jacques Vallée ?
Ah non, c'est pas un poème, c'est une courte histoire atroce.
Ah bon ? Ah oui, on va avoir peur.
Non, peur, non. La bataille des deux ponts est une esquisse d'Edgar Degas, dit dans son cabinet l'expertiseur à Renaud Coix. Le vieux paysan Coix était un finaud. Son avidité n'avait d'égal que sa méchanceté. Il ne laissa rien paraître. Coix resta Coix. Il avait acheté le vieux dessin à une vieille pour une bouchée de pain la veille. Paysan riche et avisé, il avait fait expertiser. Renaud Coix était du genre à vous vendre 700 grammes de pommes de terre quand vous en demandez 500. Il avait fait un bon mariage. Il était veuf. Dans cette famille...
Ouais.
Dans cette famille, on était filou de père en fils. Grand-mère avait fait fortune sous l'occupation. Ne l'oublions pas. Mais dans son village Rikikikwa, pensait d'abord à se prémunir de la commune et villageoise jalousie. « Ça va t'y faire dans les combien ?» Quoi demanda à qui, vous savez. « Dans les 100 000 euros, monsieur, vous pourrez en faire des cadeaux à vos enfants et à vos petits-enfants, » répondit l'espèr des beaux-arts. « Mes enfants, et puis quoi encore ?» dit Quoi. « Je m'en fous de la marmaille, » dit Ducon.
Ah bah oui, c'est l'intermédiaire. Oh, redites-nous ça.
Je m'en fous de la marmaille, » dit Ducon.
Elle est bien, hein. Elle est très proche, en plus. Oui.
Ce soir-là, sous l'Étredon, Renaud monta une combine. Avant les enchères mirifiques, il bricola une cachette sous le plancher de sa chambre. Voilà de quoi jouer un mauvais coup à ses trois filles, dont l'avarice n'avait d'égal que la rapacité. Elles s'entendirent quand elles entendirent tout ce bruit. Jeanne avait vu le vieux, un soir, mettre une cassette dans la cachette. Allons lui demander notre part. Et Jeanne, Marie et Clarisse débarquèrent. « Donnez-nous, père, une part de ces billets, où nous disons à tout le village combien vous possédez vraiment de possessions, vieux dégueulasse, sale rapia, sac à merde, et le temps entre les coix, vous le notez, sans venime. Wow. » Quand ils entendirent crier leur mère, les petits-enfants quoi arrivèrent. Petits-enfants, dont la cupidité n'avait d'égal que la brutalité. Avec des couteaux de boucher, ils se mêlèrent à la dispute, les trois gars. Degas fit du dégât ce soir-là. Renaud finit découpé en morceaux par le fruit pourri qu'il avait lui-même semé. Cette histoire reste morale, car dans la cachette, il n'avait rien, rien de rien. C'était un leurre, quoi. Avant de mourir, Renaud, les tripes à l'air, se rappela en souriant qu'il avait caché son argent dans les entrailles de l'édredon.
Waouh ! La bataille des deux ponts.
Les entrailles de l'édredon.
C'est magnifique, ça ressemble à une fable de La Fontaine.
Ah oui, on peut plus gros, mais...
Pardon ?
Un peu plus saignant, mais oui.
Ah ben oui, il y avait une violence chez Sophie Divry, mais elle est comme ça, Sophie. Hein. Elle apporte cette couleur sanglante au papou dans la tête. Jeanne Carillon, vous allez nous chanter une chanson que vous avez écrite sur un air de Francis Lemarque, Les ponts de Paris. Jeanne Carillon, Gabriel Godard au piano, musique.
Quand on se balade sur les ponts de Paris, la ville nous attache, nous ravit. Quand on se promène sous les ponts de Paris, on marche beaucoup et gare aux Panaris. Quand on se balade sur les ponts le samedi, attention parfois aux traces de... Quand on se promène sous les ponts de Paris, on s'y bécote, grand frisson garanti. Flâner et se perdre un peu sur la Seine, c'est un drôle de petit jeu qui plaît tant aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand tu veux rester qu'il faut s'en aller. Un groupe touristes débarquent, les photos matraquent ton intimité. Les ponts, il en faut toujours, sur la Seine, sur la Seine, pour fuir les curieux du jour qui reluquent nos amours. Quand on se balade sur les ponts de Paris, le gris de gris Paris nous envahit. Quand on se promène sous les ponts de Paris, on crie dessous et ça résonne pardi. On se retrousse, on est au paradis. On chante tous, vive les ponts de Paris.
Et on retrouve la textée avec le texteur Jacques Jouet et sa feuille de route. Et ceux qui ont écrit des textes, Eva Almassy, Jean-Bernard Puy, Patrice Minet et Jacques Vallée. Est-ce que c'était facile, Eva Almassy ?
Non, c'était très difficile parce qu'il y avait des précisions.
Oui.
Il faut, alors, quand il y a des précisions, comment ils correspondent exactement ?
Ah, mais en étant bon élève et en se pliant à ce que dit le maître, en fait. C'est un jeu, plus on est humble devant ce jeu, mieux ça se passe. C'est votre point de vue aussi, Jacques Jouet, non ? Il faut se laisser aller.
Hein ? Oui.
Patrice Minet, ça s'est bien passé ?
Horrible.
Jacques Vallée ?
C'est très bien.
Ah, ben voilà, on va passer sur cette réponse positive. Je ne demanderai pas son avis à Jean-Bernard. Oui. Ouais. Eh ben, parce qu'on a eu une réponse.
Je suis laissé complètement aller, moi.
C'est bien.
Oui, donc...
Bon. Alors, on va reprendre les injonctions, la feuille de route de Jacques Jouet, pas à pas, puis on va voir ce que ça donne avec chacun d'entre vous. On y va.
On commence par le titre, alors.
Oui, le titre.
Le titre du poème fait brièvement allusion à une mutation.
Jean-Bernard Puy.
Non, je n'ai pas changé.
Alors, ça commence bien.
Eva Almassy.
Alors, ce n'est pas une mutation, c'est les mutations en général. Donc, pour moi, c'est Darwin.
Ah ben, c'est pas mal, oui. C'est conforme. Ah. Évidemment, on s'élève, on est sur France Culture. Hein. Jacques Vallée.
Métamorphose.
Ouais. Patrice Minet.
Brailleur, bientôt ronfleur.
Alors, est-ce que déjà, avec tous ces titres, il y a un des amis papous qui se rapproche de l'original ?
Non. Peut-être Jacques Vallée, un petit peu.
D'accord. Alors on y va. Première injonction.
Le premier vers, pas très long, évoque un personnage accablé.
Jean-Bernard Puy.
J'en peux plus. J'ai trop soif. Et le bar est très loin. Tagalade soin de soin, tagalade soin de soin.
Bon.
Oh, c'est bien, hein.
J'avais demandé un refrain inventif.
Bon. Ah non, mais je trouve que Jean-Bernard Puy met la barre très haut pour les autres. Et ben, Almassy.
Pauvre singe nu, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Ça, c'est le refrain.
Ah, c'est le refrain.
Ah bon, d'accord. Ah oui, le vers.
Le vers, c'est juste pauvre singe nu, le personnage accablé.
C'est déjà bien, hein.
C'est déjà bien, oui.
Ça aurait pu être plus court, hein.
C'est un bon, très bon début.
Jacques Vallée.
L'élève Alonso est accablé. Allons-y, Alonso.
Ah, c'est pas mal, hein. Jacques Vallée est assez proche.
Ah oui, hey. Ah, mais il est très fin, Jacques Vallée. Patrice Minet.
Ah, pauvre petite maman en manque de sommeil, entend ce triste chant. Rond, rond, vive le gros dodo.
Ah ben, il y a de l'inventivité dans le refrain de Patrice Minet. Je ne pense pas qu'il soit dans les classiques des refrains. Non,
le problème, c'est qu'on va l'entendre 5 ou 6 fois.
Toujours pas de rapprochement sur
non.
Jacques Vallée.
Non.
D'accord. Ensuite.
Le deuxième vers, plutôt court, évoque un groupe occupé à faire ce que fait habituellement un groupe.
Jean-Bernard.
Et les autres ignorants qui attendent l'autobus. Tagada soin de soin, encore plus.
On voit l'histoire qui se construit. Hein. C'est très pouillis, ça. Eva.
Les femelles te moquent. Pour moi, les groupes, ça moque les autres, et surtout les solitaires qui sont à côté. Mais ça, c'est pas des vers. Le vers, c'est juste les femelles te moquent des hauts, des bas, des hauts et des bas.
Ah oui, il est pas bien, lui. Hein.
Les femelles, d'accord, oui. Très bien.
J'ai un groupe de femelles.
Oui, le groupe de femelles.
Oui, Jacques Vallée.
La classe est dissipée. Allons-y, allons-y.
Qu'il a un fouet à la main, le maître. Patrice Minet.
Et vous qui m'écoutez, couchez-vous, ron, ron, vive le gros dodo.
En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une harmonie entre tous leurs textes, preuve qu'ils ont respecté les consignes. Non, chaque jour, même si ça ne correspond pas tout à fait à l'œuvre originale.
Oui, oui, ils ont quand même suivi.
Oui.
Un petit peu. Hein? Le troisième vers, passablement bref, évoque le titulaire d'une certaine profession qui utilise de façon éhontée son poste de travail pour ne pas en foutre une rame.
Ouais.
Et le flic au milieu de la place qui pique du nez. Tagada, soin de soin, tagada, poil au pied.
Et c'est bien. Non, vous avez l'air accablé, Jacques. Il y a un problème. Est-ce que le texte original, vous pouvez peut-être nous le dire maintenant, est plus grave que ce qu'on entend là ?
Considérablement plus grave.
Et Valmassi, le roi Alpha les a toutes. Donc le singe Alpha. Il ne faut rien puisque de toute façon les femelles sont à lui. Des hauts, des bas, des hauts et des bas. C'est le texte le plus complexe. Hein. Et on verra après en écoutant en entier ce que ça donne. Elle est plus torturée encore que Jacques Vallée ou Pouy.
Ah oui, alors c'est la certaine profession. Mmh. Le prof roupille derrière son bureau. Allons-y, allons-y.
Et pour vous, Patrice Minet, ce sera...
Marchand de sable, mon garçonnet est excité. Et rond, vive le gros dodo.
Après.
Le quatrième vers, assez concis, évoque un symbole guerrier sous la neige.
Oui, Jean-Bernard.
Et le zouave à l'alma qui se les gèle. Tagada soin de soin, chère Angèle.
Ah bah, il est bien. Très bien, Eva. Alors moi je suis toujours avec mes singes, attention. Donc le vers c'est phallos rouge, flocon blanc.
On est très très proche là.
Des hauts et des bas, des hauts et des bas.
On s'est rapproché là, subitement, c'est ça?
Un petit peu, oui.
Un petit peu, ah. Jacques Vallée.
L'ennui est une hache recouverte de froid. Allons-y, allons-y.
Ça va mal se terminer, j'ai l'impression. Patrice Minet.
Regardez le tambour sur le bonhomme de neige. Et rond, vive le gros dodo.
Bon, c'est toujours Jacques Vallée qui, globalement, est plus proche.
Je ne sais plus, je sais plus. Là, je suis un petit peu perdu. Donc. Le cinquième oui. Vers. Relativement laconique, évoque un autre symbole guerrier qui fait ce qu'on lui demande habituellement de faire. Ici, le niveau de langue passe au franchement familier, voire vulgaire.
Oh, Jean-Bernard Pouy, on vous attend là. Mais vous ne savez pas être vulgaire, vous êtes un homme élégant.
Absolument.
Donc on vous attend là-dessus.
Et Clémenceau, au-dessus, qui se gratte. Tagada soin de soin, vive les patates.
Pas mal. Eva Almassi. Mon verre est très simple. Coup de pied au cul.
Ah oui.
Ah oui, on est proche.
Là, on est très, très proche.
Mais j'aimerais ajouter des hauts, des bas, des hauts et des bas.
Bien sûr, ça va de soi.
Jacques Vallée.
Alonso, prends cette balle en pleine gueule. Allons-y, Alonso.
Ça a généré une certaine violence quand même. Patrice Minet.
Un coup de trompette, ça empêche de ronfler, c'est vrai. Et rond, vive le gros dodo.
Ah, c'est mignon, c'est l'univers le plus charmant, celui de Patrice Monet. Hein,
c'est un gros effort.
Il y a une douceur.
Laminé a réussi à trouver une syllabe de l'original.
Ah, c'est très très fort.
Extraordinaire.
Je sens que ça vient.
C'est trompette. C'est trompette. Le sixième vers, un peu plus long que les précédents, mais pas trop, évoque un échec à répétition du genre très agaçant quand ça vous arrive.
Attention, pas de refrain cette fois-ci. Jean-Bernard Puy.
Et quand j'arrive au bistrot, c'est le pont du 8 mai. Il est fermé.
Eva?
Non, moi je suis toujours le singe, n'est-ce pas?
Ah, allez, je suis très très
non,
bien,
non,
Eva.
Non, que je ne suis pas Eva Almassi. Flocon blanc, la queue entre les jambes.
Ouais.
T'as bien fait de prévenir.
Jacques Vallée, vous avez écrit quoi, là?
Il n'arrive jamais à se concentrer sur le réel.
Oh là, c'est beau, hein, on décolle, là, on décolle. Hein. Patrice Minet.
Mais là, sans tambour ni trompette, tu t'endors, tu ronfles et ça t'éveille, tu t'endors, tu re-ronfles et ça t'éveille encore.
Non mais il a l'air content, le personnage.
Oui, enfin, il est d'espoir.
Et enfin, Jacques Jouet.
Mais le septième vers, qui n'est pas plus long que 12 syllabes, est découpé en 5 segments inégaux et doit être prononcé comme dans un halètement. Il finit par affirmer une forte inclination pour une personne du sexe opposé.
Alors, on vous attend sur le halètement, sur l'interprétation, Jean-Bernard.
Reviens, Angèle. Sans toi, je coule. Reviens, poupoule.
Là, il y a le refrain. Il doit y avoir le refrain après.
Ah oui, alors, Tagada de soin de soin.
Franchement, Tagada de soin de soin.
Eva.
Voilà du bonobo, les amours chauds, bouillants, des hauts, des bas, des hauts et des bas.
Très bonne interprétation, oui.
Alors là, on est vraiment dedans. Là.
On est dedans, ouais. Là. Mais c'est un miracle.
Ah non.
Jacques Vallée.
Une brise. La vitre en vol de l'oiseau vers sa belle. Allons-y, allons-y.
Patrice Minet.
Ron, ron et ron, viens donc téter mon nouveau-né, viens donc téter et vite ronfler.
Voilà, et même le refrain, on peut le dire, là.
C'est du vécu.
C'est du vécu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien maintenant réécouter leur texte en entier, oui, parce qu'ils sont magnifiques. Allez, ben on change, on commence par Patrice Minet.
Brailleur, bientôt ronfleur. Ah, pauvre petite maman en manque de sommeil, entend ce triste chant. Ron, ron et ron, vive le gros dodo. Et vous qui m'écoutez, rassemblez-vous ici, couchez-vous. Ron, ron et ron, vive le gros dodo. Marchand de sable, mon garçonnet est excité. Et ron, vive le gros dodo. Regardez le tambour sur le bonhomme de neige, et ron, vive le gros dodo. Un coup de trompette, ça empêche de ronfler, c'est vrai, et ron, vive le gros dodo. Mais là, sans tambour ni trompette, tu t'endors, tu ronfles et ça t'éveille. Tu t'endors, tu re-ronfles et ça t'éveille encore. Ron, ron et ron, viens donc téter mon nouveau-né, viens donc téter et vite ronfler.
Oh. C'est vrai qu'on comprend mieux.
Globalement, ça
l'histoire,
donne, ça donne vraiment quelque chose.
Ah oui, oui, oui. Elle n'est plus séquentielle. On va découvrir l'histoire globale de Jacques Vallée.
Métamorphose. L'élève Alonso est accablé. Allons-y, Alonso. La classe est dissipée. Allons-y, Alonso. Le prof roupille derrière son bureau. Allons-y, Alonso. L'ennui est une hache sous le froid. Allons-y, Alonso. Alonso prend cette balle en pleine gueule. Allons-y, Alonso. Il n'arrive jamais à se concentrer sur le réel. Il brise la vitre en vol de l'oiseau vers sa belle. Allons-y, Alonso.
C'est beau, hein.
très très proche, on est très très proche du modèle.
Très très proche du modèle. Jacques Vallée,
mot
surtout.
Mot à mot, quasiment.
Ah non. Alors maintenant, c'est le grand couplet des Valmassi sur les grands singes.
Darwin. Pauvre singe nu, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Les femelles te moquent, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Le roi Alpha les a toutes, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Le phallos rouge, les flocons blancs, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Coup de pied au cul, des hauts, des bas, des hauts et des bas. Flocons blancs. Flocon blanc, la queue entre les jambes. Voilà du bonobo, les amours chauds bouillants, des hauts, des bas, des hauts et des bas.
Et normalement, le halètement devait être uniquement sur la fin.
Oui, mais là, il y a une telle intensité, on comprend. Eh bien, c'est à vous, Jean-Bernard Pouy.
Non, je n'ai pas changé. J'en peux plus, j'ai trop soif. Et le bar est très loin, tagala soin de soin, tagala soin de soin. Et les autres ignorants qui attendent l'autobus, tagala soin de soin encore plus. Et le flic au milieu de la place qui pique du nez, tagala soin de soin, tagala poil aux pieds. Et le zouave à l'alma qui se les gèle, tagala soin de soin, chère Angèle. Et Clémenceau au-dessus qui se gratte, tagala soin de soin, vive les patates. Et quand j'arrive au bistrot, c'est le pont du 8 mai, il est fermé. Reviens, Angèle. Sans toi, je coule. Reviens, Poupoule. Tagala, soin de soin, reviens, Poupoule.
Ils ont été formidables, non ? Vous ne trouvez pas, hein ? Oui. Alors, on aimerait bien quand même, Jacques Jouy, maintenant, savoir de quel texte vous vous êtes inspiré pour écrire votre feuille de route.
Eh bien, il s'agit d'un poème de Guillaume Apollinaire qui se trouve dans Calligramme.
Oui.
Donc c'est un poème de guerre, un poème de marche en fait,
oui.
Une marche de soldat, qui s'intitule, donc le poème fait brièvement allusion à une mutation, il s'intitule « Mutation ».
Oh, bah, tout simplement, oui.
Premier
oui.
Vers,
oui.
Bah, je vous lis le poème peut-être.
Oui, justifier juste le refrain par exemple.
Le refrain c'est « Hé, ho, ha ».
Ah oui, avec l'aspiration aussi, oui.
Une femme qui pleurait, « Hé, ho, ha ». Des soldats qui passaient. Hé, ho, ha ! Un éclusier qui pêchait. C'est celui qui pêchait la ligne pendant son travail. Hé, ho, ha ! Les tranchées qui blanchissaient. Hé, ho, ha ! Des obus qui pétaient. Hé, ho, ha ! Des allumettes qui ne prenaient pas. Et tout a changé en moi. Tout, sauf mon amour. Hé, ho, ha !
Bravo à vous aussi, Jacques Jouy, parce qu'avec votre feuille de route, on a des textes qui se ressemblent pas tout à fait, mais il y a quand même toujours cette musique et un peu de la musique d'Apollinaire.
Oui, c'est mieux qu'Apollinaire.
Ah ben ça, je ne sais pas. Nous en discuterons plus tard. Alors, on retrouve nos homophonies approximatives. La bataille des deux ponts. Et c'est la première fois, je crois bien, qu'on fait une histoire homophonique en chanson. Je l'ai demandé à Patrice Minet. Patrice Minet, c'est un homme très courageux. Et puis, il ne veut pas me contrarier, surtout, quand je l'ai au téléphone. Alors, il me dit oui, parce qu'il se dit c'est plus facile de lui dire oui tout de suite.
Non, c'est bien d'essayer.
Alors, donc, vous avez écrit une histoire homophonique en chanson. Elle commence par la bataille des deux ponts. Elle se termine par une homophonie approximative. Est-ce qu'il y a une homophonie intermédiaire ?
Non, je n'ai pas réussi à.
Voilà, en chanson, c'était difficile. Vous pouvez nous dire quel est votre choix de chanson ?
Oui, c'est sur un air de Georges Brassens qui s'appelle « La mauvaise réputation ».
Ah oui, au village sans prétention,
voilà.
J'ai mauvaise réputation. Et vous allez être accompagné au piano par Gabriel Godard.
Ah Ah, la bataille des deux ponts, on ne pense qu'à se mettre des nions. Qu'on soit faible ou qu'on soit costaud, on se tombe tous sur le paletot. Je ne veux pourtant de mal à personne, mais quand je suis là-bas, il faut que je cogne. Et je tombe à bras raccourcis sur les gros et sur les petits. Oui, je tombe à bras raccourcis sur les gros et sur les petits. Tout le monde s'enfuit devant moi. sauf les culs de jatte. Ça va de soi. Chaque fois que je vais aux deux ponts, lieu de mauvaise réputation, il y a une échauffourée dans laquelle je vais me fourrer. Je ne veux pas savoir les causes du drame, je ne suis pas là pour sauver une âme, mais pour gentiment distribuer des coups, des marrons, des fessées. Oui, pour gentiment distribuer des coups, des marrons, des fessées. On n'est pas là pour s'embrasser. On n'aime personne, c'est bien assez. La fois dernière sur les deux ponts, il n'y avait qu'un seul larron. Je lui ai dit, il n'est pas trop tard, je vais te gratifier d'un bon cocard. Mais ce gringalet, il n'a pas eu peur, alors que j'étais prêt à y aller bon cœur. Mais parfois, on ne peut pas prévoir la réponse de son auditoire. Oui, parfois, on ne peut pas prévoir la réponse de son auditoire. Au moment où je me ruais sur lui, il s'est simplement accroupi. J'allais lui donner une calotte quand il m'a baissé ma culotte. Je me suis retrouvé le cul à l'air, j'ai arraché son pull vert. On était pourtant au cœur de l'hiver, en jetant les fringues toutes dans la rivière. Tous les deux, le derrière à l'air, on s'est batté nus comme des vers. Quand on a entendu les flics, on a été pris de panique. Après la bataille des deux ponts, c'est la cavale des deux cons.
Bravo Patrice Mignel, super, non, la bataille des deux ponts, la cavale des deux cons. Ah, simplissime et superbe. En place pour le final, eh oui, on a quasiment fini. Et comme on a fait le pont toute la soirée, ben, on va continuer avec le final. Donc le final, un final qui a été écrit par Lucas Fournier, avec des jolis rôles, parce que c'est un homme généreux, Lucas, des jolis rôles pour Jeanne Carillon et Hervé Le Tellier, qui seront le couple glamour de l'histoire. Jean-Bernard Puy, qui a un rôle très, très important. Patrice Minet également. Et Gabriel Godard, qui chantera, qui jouera du piano pour accompagner aussi Jeanne en chanson à un moment du final.
Sur une idée originale de Françoise Tressard.
Ah, merci. Musique.
Guillaume est poète, et Marie consacre sa thèse d'architecture au pont de la Corne d'Or, conçu par Léonard de Vinci pour le sultan ottoman Bajazet II. Premier baiser sur le pont des Arts, premier serment sur le pont au change, tout se passe très bien, vraiment très bien. Mais chaque soir, c'est la même chanson.
Oh Guillaume, je suis une rivière insolente qui fait glou-glou sous tes arches puissantes. Sois beau. Beau et pont à la fois. Ce soir, tu me fais un pont, dis chérie.
C'est le pont-pont. Mais je fais le pont tous les soirs. Le pont suspendu, le pont tournant, le pont de trois jours et même le pont de vie. J'ai le dos dans un état, je me suis pompé.
Je veux un vrai pont. Tu me le fais ce pont, dis chérie.
Ainsi Guillaume, notre poète, partit très loin en quête d'un pont. Le premier jour, il vit un pont. Et il se dit que cela était bon.
Tiens, un bridge over troubled water. Allons nous renseigner. Bonjour.
Et bonjour. Je suis le pont du Gard. Du temps d'Adrien, qui était empereur et qui m'a construit, peu cher empire sèche, un travail de Romain. En ce temps-là, je faisais aussi aqueduc. Et du coup, au coquin de sort, j'avais le gardon qui me passait en dessous et l'eau de l'aqueduc qui me passait au-dessus. Et voilà, je suis entre deux eaux. Et pourtant, je fais le vieux eau.
Et comme disait Vinci, les ponts, ça arrose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. De l'eau dessus, de l'eau dessous, de l'eau de là, j'ai rien compris. Cherchons un pont plus loin.
Et plus loin, bien plus loin, le deuxième jour, Guillaume vit un pont. un pont vénitien. Et il se dit que cela était bon.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Guillaume. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir un pont. Vous êtes le pont des amoureux, ça tombe pas mal. Est-ce que je pourrais vous emprunter ?
Mais le vieux pont, qui ne comprend que le vénitien, et encore seulement celui du Quattrocento, reste de marbre. Guillaume aurait pourtant rêvé de l'entendre répondre avec la jolie voix de Marie.
Guillaume, au lieu de pontifier, dépêchez-vous. Dessoupirez-moi. Dessoupirez-moi. Oui, mais faites ça vite. À Venise, cessez de murmurer, hein, de susurrer, hein. Agissez. Dessoupirez-moi. Dessoupirez-moi. Prenez-moi en gondole de traviole. Chauffez-moi. Défaites mes arceaux. Démontez-moi le marbre. Emportez ma rambarde en morceaux. Car moi, mon cher, je suis l'as des amours discrètes. Tombez pas dans l'oubli. Allez-y. Dessoupirez-moi. Et vous, dégourdissez-vous.
Ô soupir, ô soupir, existe-t-il sur la terre une oreille assez fine pour entendre le soupir d'une rose qui se fane ? Sinon, ma Marie, ma bien-aimée, retournons à Paris.
Paris ! Voici Paris couvert de ses voies sur berges inégalées et de ses ponts merveilleux. Et le troisième jour, Guillaume vit un pont parisien et il se dit que cela était bon.
Bonjour, je cherche à faire un pont. C'est une annonce que j'ai faite à Marie. Lui apporter un pont.
Je n'ai pas envie de jouer au pont, mais je fais très bien le zouave. Je suis celui du pont de l'Alma, pont édifié par Paul Martin Philémon Guillochet de la Galisserie, le fripon. Sous le pont, j'ai du chapon.
Il me faut un pont, même un petit pont de bois, genre qu'on traversait naguère, tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets de bois.
Ah, et un pompin ?
Un pompin ? Un pimpon ?
Non, pas pimpon, pompin. Oui, un pompin par un pompier, ou pas ? Comme le pont d'Argenteuil de Manet, oui, ou celui de Munch, avec les jeunes filles sur le pont.
D'Avignon ?
Non, les demoiselles d'Avignon, c'est Picasso.
Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, longs de silas.
Ah, ça c'est le pont Mirabeau, Guillaume. Oui. Venez, décampons. Allons au pays des pompins. Oui, à Pont-Aven.
Et c'est ainsi que le quatrième jour, Guillaume vit un pont, plein de ponts, peint par des peintres. Il vit même Marie, sa Marie, Laurencin. Et il se dit que cela était bon.
Mon Guillaume.
Ah, Marie, toi ici.
Tu me fais une aquarelle, dis chérie.
Aquarelle, les jeunes filles.
Mais au bonheur, tout simplement. Et le pont du bonheur a les couleurs de l'arc-en-ciel.
Tiens, justement, voici le bonheur. Enfin, Rosa Bonheur.
Un matin, vous sentez que ça frétille. Vous avez envie de vous régaler. Les poils du pinceau vous émoustillent. C'est le moment de planter son chevalet. Pain, 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 des femmes nues et roses. Pain, 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 des raies comme Chardin. Sur son tableau, les angelots font des choses. Et les nus de Gauguin ont des petits airs coquins. Pain, 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 prends la pipe de Marguerite. Pain, 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 trempe ton pinceau fin. Les gros rouleaux dans tous les sens s'agitent. Et les grands tableaux ont tous un petit grain. Rosa Bonheur, la vie se peint en rose, y a des couleurs. C'est la naissance du monde. Pain, 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 fait sourire la Joconde. Pain, 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 y a des baigneuses au bain. Les odalisques ont des lèvres purpurines. Et tous les courbés ont un beau tour de rein. Pain, 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 y a Mondrian qui vient. veulent cet air mutin. Pin, 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 font les impressionnistes. Pin, 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 répètent les cubistes. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les boudins, petits, les Gauguins, albéguins. Figez le bras, se prend pour Caravage. Il y a Forain qui trouve que ça soulage. Pin, 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 ranime ta nature morte. Pin, 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 tu te sens le Titien. Et pour ta mie, tu ne feras pas de croûte. Mets-moi un peu d'huile, je te fais pas des seins. Pin, 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 y a Mondrian qui vient.
Pin, 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 y a Mondrian qui vient.
Les Papous entre deux ponts, fin de la deuxième partie. Une émission proposée par Françoise Tressard, équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Romain Lenoir, Julien Calvas. Attaché de production, Marie Dalquet qui a aussi pris les photos de notre soirée. À découvrir sur franceculture.fr à la page des Papous du jour et sur la page Facebook des Papous où vous pouvez nous rejoindre. Un numéro des Papous en public à podcaster sur franceculture.fr et n'oubliez pas de faire l'expérience du son binaural en branchant un casque pour l'écoute. Vous baignerez dans le son qui arrivera de droite, de gauche, derrière votre tête, devant votre front. Sensation garantie, alors ne boudez pas ce plaisir. Et comme nous sommes restés, nous sur scène et vous dans la salle pendant 2h40, eh bien il reste à écouter les drôles des pistoliers avec une correspondance entre Dédale, Achille et sa maman Tétis. Et une vie de vitre racontée tout en transparence. Ce sera dimanche prochain à 12h50. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture.